Alors, bonjour à toutes et toutes et bonjour Timothée.
Alors bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle émission du Fauteuil philosophique. Alors comme vous pourrez le remarquer, aujourd'hui on enregistre à distance étant donné que voilà, on n'est pas aux mêmes endroits. Moi je suis à Lyon, Mathieu est à Paris et notre invité, Yves Narduzzi se trouve à Pau. Bonjour Yves.
Bonjour, bonjour à vous.
Alors du coup Yves, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Et on est heureux de vous recevoir, bon, même si c'est virtuellement. Donc avant de dévoiler le thème que vous avez choisi, que vous nous avez proposé, on va commencer par vous présenter succinctement pour que nos auditrices et nos auditeurs sachent un peu qui vous êtes.
Et du coup, il y a la première chose qu'on pourrait dire sur vous, c'est que vous êtes séiste, c'est-à-dire que vous pratiquez le canoë. Et vous avez été tout d'abord pendant 14 ans athlète de l'équipe de France de slalom en canoë monoplace. En parallèle, vous avez exercé pendant quelques années la profession de prothésiste dentaire et d'entraîneur du pôle espoir de Franche-Comté. À la suite de vos années en équipe de France, vous partez aux États-Unis où vous devenez pendant 4 ans l'entraîneur national de l'équipe américaine collective de canoë en catégorie senior et élite. Depuis 2004, vous étiez jusqu'à il y a encore peu, d'ailleurs, pendant même que nous enregistrons cette émission, l'entraîneur national de l'équipe de France de canoë, toujours en senior et élite. À ce poste, vous avez notamment entraîné Togi Estanguet, Nouria Newman, ainsi que Cédric Joly, champion du monde 2019 de canoë en slalom individuel. Et depuis peu, donc, vous avez été affecté à de nouvelles tâches en tant que conseiller technique régional de la Nouvelle-Aquitaine.
Et donc, du coup, Yves, avant de commencer vraiment à rentrer dans le sujet sur le thème que vous avez choisi pour l'émission, on va commencer par vous poser la même question qu'on pose à tous nos invités en début d'émission. Pour vous, qu'est-ce que la philosophie?
Pour moi, la philosophie, c'est une discipline ancienne, mais qui a pour but, à mon avis, de gagner en connaissance, la connaissance sur les relations humaines, la connaissance, en tout cas, la volonté d'aller vers plus de sagesse, vers plus de compréhension de ce qui est l'humanité, on va dire, au sens large. C'est dans ce sens-là où c'est la définition que j'ai un petit peu de la philosophie.
Yves, pourriez-vous me dire quel thème vous avez choisi et pourquoi avez-vous choisi celui-ci?
Alors, le thème qui m'a paru intéressant d'aborder, c'est la place du numérique au sens large dans la démarche de performance et dans le sport de haut niveau en général. On s'aperçoit que le numérique est omniprésent et ça m'intéressait de réfléchir un petit peu à l'impact en fait de ces nouveaux outils qui sont utilisés dans la société en général, mais tout particulièrement dans le sport de haut niveau et donc différents outils qui viennent se rajouter en fait à des démarches qui existent depuis très très longtemps. Mais voilà, on va dire que le numérique aujourd'hui est un outil qui me questionne beaucoup.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Yves. Et on va passer, sans plus attendre, à l'instant concept.
Le dépassement de soi, qu'il soit physique ou intellectuel, c'est un arrachement à ce qu'on est dans l'instant pour essayer d'améliorer ce qu'on est tout de suite vers ce qu'on sera dans quelque temps. La différence entre ce qu'on pourrait appeler le dépassement de soi de l'athlète antique et celui de l'athlète moderne, c'est que dans l'Antiquité, bien sûr, l'athlète, le vainqueur, recherche une forme de transcendance. Il cherche à devenir en quelque sorte un demi-dieu, ce que sont les vainqueurs, notamment à Olympie. Mais ce dépassement ne s'inscrit dans aucune idéologie qui soit celle du culte du progrès, et notamment du progrès à l'infini de l'homme, parce que cette idée-là irait à contrario de l'ordre naturel, c'est-à-dire des limites posées par la nature. Il n'y a pas cette idée d'un progrès à l'infini dans le dépassement antique. Le dépassement moderne, lui, s'inscrit dans le cadre de l'idée de perfectibilité, c'est-à-dire d'une amélioration notamment quantitative de la performance humaine, y compris lorsque celle-ci dépasse, transgresse, outrepasse la nature. Et par conséquent, les deux univers de pensée sont très étrangers l'un à l'autre. Dans le premier cas, outrager la nature n'est pas pensable. Dans le second, outrepasser la nature est en quelque sorte le principe et la règle, puisqu'il faut aller à l'infini des progrès de l'espèce humaine.
Alors, vous venez d'écouter Isabelle Queval, philosophe et ancienne joueuse de tennis de haut niveau, à l'occasion de l'exposition Corps et Sport, présentée à la Cité des Sciences et de l'Industrie en 2020. Isabelle Queval vient de nous présenter une partie de son analyse concernant un modèle de la performance sportive qui implique le dépassement de soi et qui essaye constamment de repousser les limites de l'être humain, de dépasser la nature. Cette norme du dépassement continuel n'est pas sans rapport avec notre modèle socio-économique, loin de là. Ce modèle qui essaye également de repousser constamment ses propres limites, et ce, depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Aujourd'hui, la numérisation et l'automatisation représentent cette nouvelle performance, cette forme de progrès qui est au 21e siècle, ce que le train à vapeur était au 19e. La question est donc, le sport de haut niveau peut-il se construire à côté d'un système avec lequel il a étroitement évolué, qui a contribué à sa construction ainsi qu'à son avènement jusqu'à sa forme actuelle? Et si oui, pourquoi cette bifurcation de la performance, Yves?
La bifurcation de la performance, je pense qu'elle a suivi effectivement les progrès technologiques et le sport comme d'autres domaines ont pu s'appuyer sur ces nouveaux outils. Et je pense qu'en premier lieu, ces outils ont permis de mesurer concrètement des évolutions sur des capacités physiques, sur la physiologie, sur les capacités musculaires, les qualités musculaires. Donc, de ce point de vue-là, on peut estimer que la technologie est un point très positif, qu'elle a permis aux sportifs de haut niveau de mieux quantifier la progression recherchée.
Et si, on va noter que le dépassement de soi, ce n'est pas uniquement une pratique du sportif de haut niveau, et en tentant de s'améliorer dans le sport ou dans une autre discipline, un individu, il se dépasse. Et on est peut-être dans la distinction qu'effectue Isabelle Queval entre le s'accomplir et le se dépasser. Qu'en pensez-vous?
S'accomplir, c'est, de mon point de vue, c'est parvenir en fait à exprimer au mieux ses capacités, exprimer son potentiel. Et se dépasser, c'est probablement l'étape suivante, l'étape ultime, de parvenir à optimiser encore à un plus grand point ses propres capacités. Et cette différence, elle agit aussi, je pense, beaucoup sur la démarche de haut niveau, sur l'état d'esprit. Un athlète qui est en permanence animé par la volonté de se dépasser va avoir des motivations qui vont être décuplées.
Le dépassement, est-ce qu'on le considère du coup comme potentiellement infini, en tout cas pour le sportif, ou est-ce que malgré tout, il y a un moment où on peut plus se dépasser?
Mon point de vue, c'est infini. Parce que je pense que les qualités humaines sont très larges, les champs sont très variés. Donc c'est difficile d'imaginer, en tous les cas c'est un petit peu antinomique de se dire qu'on peut arriver à des limites, parce qu'il y a toujours des marges de progression. Et effectivement, plus un athlète est expérimenté, plus sa marge de progression en fait dans tous les domaines va être infime. Et c'est justement ces petits espaces qui sont recherchés, et de ce point de vue là on peut estimer que il y a pas de limite.
Est-ce que pour développer un petit peu sur le sujet, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même des limites physiques quand même intrinsèques un peu à chaque individu, alors qu'ils peuvent différer selon les personnes, et qui du coup poseraient quand même un certain horizon, un certain plafond au-dessus duquel on ne pourrait pas aller?
On peut aussi observer en fait la spécificité de chaque discipline sportive. Il se trouve que le canoë-kayak en eau vive est un sport à habileté ouverte, dans le sens où il n'y a pas de normes concrètes, puisque un compétiteur va naviguer sur de l'eau vive. Donc une des grandes recherches, un des grands points de performance est associé à la capacité à utiliser en fait la force de l'eau. C'est-à-dire que la rivière a une masse d'énergie. Et quand le sportif parvient à s'approprier la force de l'eau, il va décupler son efficacité. Et de ce point de vue-là, on peut estimer qu'il y a peu de limites. Les limites qui peuvent apparaître, c'est davantage associé à des intentions. On pourrait s'écarter en fait de l'utilisation de la force de l'eau. Donc, plus on est dans des situations de stress ou de pression, moins on va être probablement en capacité à être en harmonie en fait avec son environnement et avec l'eau. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la pratique du kayak slalom est assez spécifique et démontre en fait qu'il y a une marge en fait assez infinie sur la capacité à repousser les limites.
Et du coup, on peut aussi repousser ses limites avec l'utilisation de nouvelles technologies, par exemple, je sais pas du tout, mais de nouveaux canoës, par exemple.
Donc, de ce point de vue-là, la technologie au niveau matériel, elle est très intéressante puisqu'elle permet effectivement des évolutions permanentes. Donc, pour chaque type de rivière, on va dire, le matériel peut être adapté. Le matériel va être adapté également par rapport au gabarit. Du sportif, à sa technique, à ses propres modèles en fait de navigation. Donc le matériel est pour moi une évolution technologique hyper positive.
Et du coup, on va juste revenir. Quand on l'expliquait dans notre dernière émission, le petit fauteuil de la philo qui portait sur le design et le politique. On avait pu voir que les objets techniques, justement, produits par l'homme, portent en eux une dimension pharmacologique. C'est-à-dire que le feu brûle et réchauffe, il y a à la fois poison et remède. Et les outils numériques, à l'image du feu, ils sont pharmacologiques. Ils produisent à la fois des remèdes et des poisons. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette assertion? Et si oui, succinctement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de poisons et de remèdes que produisent selon vous les outils numériques dans le sport de haut niveau?
Donc le côté remède peut éventuellement être rattaché à tout ce qui va permettre à un sportif de mieux se connaître, de développer ses propres capacités physiques et d'évoluer, de progresser sur les aspects physiques. Je pense que c'est un aspect qui est très très positif. Le côté un petit peu poison, on va dire, c'est que des fois en fait l'outil va un petit peu se substituer en fait à la prise de conscience de l'athlète. C'est-à-dire qu'un outil qui pourrait permettre d'évaluer son état de forme, par exemple, peut amener un plus. Par contre, il peut être ça peut être un travers si le sportif se repose uniquement sur ce que l'outil lui apportera comme information. Et s'il oublie d'être à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses propres représentations au niveau gestuel.
Et merci beaucoup du coup pour ces réponses. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est envisager donc la question qui nous intéresse, c'est-à-dire l'utilisation des outils numériques dans le sport de haut niveau par le biais un peu du rapport de l'athlète à son corps. Parce qu'on pourrait dire en quelque sorte que le corps de l'athlète, c'est son premier outil avant tout autre équipement dont le but est d'améliorer la performance. On peut penser par exemple à une meilleure combinaison pour les nageurs, à des chaussures plus adaptées pour les coureurs, et que sais-je encore. Mais dans ces cas-ci, l'utilisation d'objets techniques peut changer les sensations de l'athlète lors de l'effort, mais il reste quand même en contact avec ses sensations. Or, dans le cas des outils numériques, ce qui change, selon donc Raphaël Verscher, qui est professeur en philosophie, c'est que les outils numériques induisent un éloignement progressif de l'attention de l'athlète envers ses sensations corporelles. Les multiples mesures et indicateurs dont l'athlète dispose lui permettent d'acquérir une connaissance plus fine de ses processus métaboliques, mais en même temps, ils créent une distance plus grande entre l'athlète et son propre corps, et qui risque de ne considérer son corps que sous le prisme de statistiques et d'indicateurs chiffrés, et de ne plus être à l'écoute de ses sensations. Qu'est-ce que vous pensez, Yves, tout d'abord de cette analyse?
Je partage complètement cette analyse. Pour moi, c'est un point de vue que, que j'ai débattu assez régulièrement avec les athlètes. Effectivement, c'est important de remettre un petit peu au cœur de la réflexion l'utilisation de ces différents outils. Et il est fondamental de pas de faire un petit peu la part des choses, à savoir que les outils doivent être au service de certaines stratégies de développement. Et par contre, de se méfier de tomber dans un travers où en fait on va faire pour faire. C'est-à-dire que si on raisonne uniquement en termes d'augmentation de chiffres, on peut perdre un petit peu le sens en fait dans la volonté de développement. Donc tout ça pour dire que garder un lien avec l'objectif de développement et orienté vers la performance, c'est-à-dire vers les moyens qui sont nécessaires à mettre en place pour réussir une performance, ça me semble être fondamental. Et parfois, les outils vont amener un petit peu de parasites dans cette prise de conscience et dans le fait d'être en capacité de garder du sens de façon à ce que ce soit vraiment une façon d'utiliser l'outil pour développer les qualités intrinsèques d'un sportif.
Et comment, du coup, selon vous, les outils numériques qui peuvent parasiter un petit peu cette recherche de sens et d'objectifs, comment ça se manifeste?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'accompagnement, c'est-à-dire que l'entraîneur à la base est le garant en fait de la bonne utilisation de ces outils. D'ailleurs, c'est souvent l'entraîneur qui anime ou qui organise en fait l'utilisation de différentes méthodes, et à charge de l'entraîneur de réguler la. Il y a un travail un petit peu pédagogique en fait, qui est nécessaire. Et je pense que de ce point de vue-là, des fois il y a des écarts qui se créent, puisqu'on va on va déployer des efforts en fait pour alimenter des statistiques ou des bandes de données, et on peut perdre un petit peu en fait le sens premier. Donc à mon sens, l'entraîneur est un peu au cœur du système. Bien entendu, les sportifs sont aussi en capacité d'avoir des démarches personnelles vis-à-vis de ces méthodes. Donc aujourd'hui, il existe différentes façons de s'approprier ces techniques-là. Et encore une fois, il peut y avoir des écarts. C'est-à-dire que la volonté d'amener une évolution par la technologie peut être un leurre en fait, entre guillemets, puisque l'important, c'est de mesurer concrètement si c'est un outil qui va être au service de la performance, ou si c'est une façon de rêver la performance, ou d'avoir le sentiment que parce qu'on utilise de la technologie, en fait, on va aller vers des progrès.
Et du coup, pour en revenir un petit peu plus au thème du corps, quand on avait discuté avant ça pour préparer l'entretien, vous aviez dit que pour vous, c'était important pour un athlète de rester à l'écoute de son corps. Et du coup, pourquoi, selon vous, c'est important, et qu'est-ce qu'on peut perdre en arrêtant d'être à l'écoute de son corps?
Disons que le corps est le premier outil. Là, je pense que le sport en général, ou le sport de haut niveau particulièrement, est une forme d'expression corporelle. Donc, c'est fondamental d'avoir une bonne représentation personnelle, d'être bien dans sa peau, pour se préserver des accidents, du surentraînement, éviter les blessures, mais en même temps, aller toujours plus loin justement dans la capacité à se surpasser. Et se surpasser, c'est dépendant de la disponibilité en fait. Donc la charge énergétique disponible, la souplesse disponible, et bien entendu tout ce qui va concerner la capacité à ressentir. ressentir le geste, ressentir le timing, ressentir le sens du mouvement. Donc, ces éléments-là sont très, très associés à la représentation de chacun sur son corps.
Bon, mais du coup, donc, effectivement, chacun a une représentation de son corps, et puis on peut en penser en même temps qu'aussi les outils numériques ils servent à ça, enfin, ils peuvent venir compléter cette représentation de son corps avec tous les indicateurs que ça amène. Comment est-ce qu'on peut conserver une certaine intelligence de l'athlète dans l'utilisation de son corps, dans sa capacité à prendre par lui-même la bonne décision en situation réelle, et sans être constamment guidé par les outils numériques, comme ça peut se faire, trouver ça dans les recherches, parfois dans le monde du cyclisme actuellement, où les coureurs sont sur leur vélo avec un ordinateur qui leur indique tout, et ils ont juste le regard rivé sur leur ordinateur.
J'ai quand même l'impression qu'en fait, il y a une bonne partie de ces outils numériques qui sont destinés à amener des mesures quantitatives. Donc, soit sur de l'intensité, soit sur du temps. Donc, ça, c'est des données qui peuvent être très intéressantes, mais qui, en elles-mêmes, poussent un petit peu en permanence les athlètes à fournir davantage. Donc, cette recherche de volume, en fait, elle est nécessaire pour augmenter sa capacité à produire une performance. Et à mon avis, il y a un certain stade où on peut aller trop loin. Donc, amener les sportifs à rester un petit peu en cohérence, bien, ça nécessite de faire un travail spécifique. Donc, c'est souvent d'ailleurs un travail qui peut être effectué avec des kinés ou avec des personnes qui font du yoga ou enfin toutes les techniques qui peuvent amener à développer en fait sa capacité à développer sa souplesse, à développer ses sensations. Donc c'est quelque chose qui échappe un petit peu en fait au numérique parce que on peut pas réellement le mesurer. Donc le cas du cycliste par exemple, ben il va pouvoir avec un cardiofréquencemètre définir exactement ses zones d'intensité. Donc son travail au niveau cardiovasculaire va lui permettre de doser son engagement. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui vont échapper en fait. Et c'est là l'intérêt, je pense, d'utiliser le numérique à bon escient et de ne pas perdre du tout de vue tous les autres facteurs en fait qui vont permettre à un sportif de se dépasser.
Et ça, c'est ce que c'est plus du coup le rôle de l'entraîneur justement de recadrer un petit peu, entre guillemets, l'athlète dans l'utilisation de ses outils, mais tout en faisant en sorte qu'il ait son objectif toujours en ligne de vue.
Disons que les sports à forte dominante technique, la place justement de la bonne expression corporelle va être très, très importante. Je pense que dans d'autres sports qui sont un petit peu plus à des facteurs physiologiques, on peut estimer que le numérique pourra prendre sa place de façon importante parce qu'on va se baser sur beaucoup de données chiffrées. Et c'est pour ça que je crois que chaque discipline va avoir en fait une empreinte importante par rapport à ce numérique. Pour moi, le rôle de l'entraîneur en fait est de faire preuve de pédagogie en expliquant concrètement quels vont être les avantages d'utiliser ces outils et en même temps d'accompagner le sportif de façon à ce qu'il s'approprie lui-même cette démarche-là. C'est à mes yeux important que le sportif comprenne exactement ce qu'il fait. Quelle filière physiologique il va développer, quelle qualité musculaire il va développer, et utiliser ces capacités-là pour les remettre dans le projet global qui est de faire de la performance de façon à optimiser et être dans une démarche efficiente, on va dire.
Eh bien, merci beaucoup Yves. Et du coup, sur ces bonnes paroles de performance, nous allons passer à l'instant pratique.
Je vais le généraliser à Google Agenda et à la planification, même si Yves n'utilisait pas Google Agenda et nous envoyait chaque semaine une planification hebdomadaire par mail. Et ça, pour le coup, c'était quelque chose qui pour moi, enlevait un peu du lien. Et je pense qu'on en a souvent parlé avec lui, mais on aurait eu plus intérêt à se réunir le vendredi et puis prendre une heure pour discuter du programme de la semaine suivante. Une fois que le programme est fait ensemble, on peut se l'envoyer. Mais du coup, ça ramène une relation plus. Voilà, il y en a un qui fait le programme, il l'envoie. Et puis en fait, ce qui se passait concrètement, c'est qu'il nous envoyait une proposition de programme pour la semaine. Et que tous, au mieux, on le lisait. Au pire, on ne le lisait pas. Et puis on arrivait aux séances et on disait, on fait quoi aujourd'hui? Donc c'était un peu nous servir la soupe, en fait. C'était, on arrivait les mains dans les poches. Ou à minima, on savait quelle séance c'était. Mais. On n'était pas du tout acteur de la préparation de la séance et de la planification de la semaine. Alors que quand on n'utilise pas ces outils numériques, ben, on est bien obligé de se réunir et puis de dire voilà, on fait ça, 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 semaine prochaine. Et même si on est avec un entraîneur super autoritaire, il y a toujours moyen de discuter un minimum, quoi. Et donc là-dessus, ouais, c'est comme pour WhatsApp, je trouve que ça enlève du lien, puis ça enlève de l'échange. Et à l'inverse, par contre, les autres outils qu'on utilise, donc Dartfish l'analyse vidéo, ça, en fait, c'est un outil qui est… En fait, on le fait ensemble. C'est-à-dire qu'on est obligé de se… On se réunit le soir après la course ou entre les deux manches et on se fout derrière son ordinateur, on regarde les vidéos et on discute de ce qu'on voit, quoi. Donc là, pour le coup, ça n'enlève pas de l'échange. Au contraire, ça en crée plus. Et je pense que sans cette application, ce serait très compliqué de faire de la haute performance. Et pareil pour le capteur cardiaque. Dans mon cas, c'est plus annexe en lien avec la préparation physique. On a eu très peu d'échanges avec Yves à ce sujet, d'autant plus que je l'utilisais peu à l'époque. Là-dessus, pour le coup, lui a une vision encore assez plutôt l'ancienne école où. On lui dit qu'en slalom, en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un capteur cardiaque. Il vaut mieux apprendre à se connaître, apprendre à écouter son corps et à savoir, à partir de repères, par exemple, on utilise des termes de seuil aérobie, seuil anaérobie, pour savoir à quelle intensité on est. Et ça correspond, en fait, à des durées d'effort possibles. Et on peut caractériser ces seuils par un ressenti physique. Par exemple, passer le seuil aérobie, donc le seuil d'endurance pur, ça devient difficile de parler tout en étant en effort. Si on peut parler et faire l'effort, c'est qu'on est probablement autour de ce seuil. Donc, c'est un effort très facile. Et lui est plutôt dans cette démarche-là, où je pense que cette phrase d'ailleurs est de lui, l'outil ne doit pas devenir une fin et l'objectif de la séance, ce n'est pas d'être rivé à sa montre et à regarder, oula, il ne faut pas que je dépasse 130 battements par minute. Mais plutôt de s'écouter, sentir qu'on est autour de cette zone et que l'important ne se joue pas sur la montre, mais plutôt sur le ressenti, sur le travail technique qu'on fait en parallèle, etc.
Alors, nous venons d'écouter Cédric Joly, que vous connaissez. Yves, c'est un athlète séiste que vous avez entraîné et champion du monde 2019 de slalom individuel. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Cédric Joly concernant les outils numériques utilisés dans sa pratique et la vôtre aussi en tant qu'entraîneur?
Bah oui, effectivement, ce qui me frappe, c'est sa première remarque concernant la communication en fait des programmes, parce que Cédric exprime que il préfère lui avoir des temps de réunion en physique, de façon à débattre du programme hebdomadaire. Ce à quoi j'adhère complètement. Pour des raisons un petit peu organisationnelles, notamment liées au fonctionnement d'un pôle France, on a été amené, en fait, j'ai été un peu poussé, en fait, à modifier mes méthodes de façon à passer davantage par l'outil numérique, c'est-à-dire envoyer un programme soit par mail, soit remplir les agendas Google. Et cette façon de faire, c'est essentiellement pour réussir à coordonner, à mieux coordonner l'ensemble des acteurs. Il est évident que ça, c'est assez néfaste par rapport à la capacité de l'entraîneur à expliquer exactement pourquoi on va faire les choses et débattre en fait des objectifs. En fait, je trouve que ça, c'est justement un des travers du numérique, c'est que ça enferme un petit peu le sportif dans une situation où il va être un petit peu le, il va pas être complètement acteur. Il va plutôt appliquer des contenus ou des séances, mais il va pas forcément être intégré dans la démarche au niveau de la conception en fait, la conception du programme d'entraînement. Et cet aspect-là, il est assez dangereux, je pense, quand on a l'ambition en fait d'aller vers de la haute performance. Et plus les sportifs ont de l'expertise, plus ils doivent être impliqués en fait dans ce travail de construction. Et moins les sportifs ont d'expertise, plus en fait il faudra les impliquer, mais davantage pour leur expliquer quel sens on recherche. Donc là, il y a un travail pédagogique important pour l'entraîneur, c'est-à-dire de donner toutes les informations qui vont comprendre à l'athlète de bien s'approprier le pourquoi du comment. À quoi ça sert de faire tel type d'entraînement, qu'est-ce qu'on va développer comme qualité. Donc, dans les deux cas, expert, moins expert, je pense que les outils de communication moderne, en fait, viennent parasiter et amènent du flou. Et en fait, écarte les acteurs de leur rôle en fait dans
cette pratique. Et au-delà des outils de communication, il y a d'autres outils que vous trouvez néfastes pour la performance de haut niveau et la relation aussi entraîneur sportif.
Alors là, j'ai un œil assez critique, mais bon, j'essaie de me remettre en question aussi. Pour moi, c'est tout ce qui va concerner en fait les réseaux sociaux, c'est-à-dire que aujourd'hui, les athlètes sont obligés d'utiliser ces réseaux pour alimenter leurs relations avec leurs partenaires et communiquer sur ce qu'ils réalisent. C'est extrêmement chronophage. Et en fait, forcément, les sportifs sont disponibles pour faire ça dans des phases en fait où ils doivent s'engager sur de la récupération. Donc, c'est essentiellement dans les fins de journée ou le soir où le fait de passer des heures sur des écrans à communiquer, ça peut être assez néfaste pour ceux qui ont du mal à bien gérer ça. Au-delà de ça, ces réseaux sociaux, parce que des fois, ils sont vraiment, c'est fondamental, ils n'ont pas le choix. Et d'autres fois, en fait, c'est aussi un petit peu une perte de temps, ou en tout cas, l'objectif phare est un peu perdu, et puis il y a une façon de une volonté un petit peu d'exister ou de voilà de se mettre un petit peu en scène. Cette mise en scène, pour moi, elle est néfaste parce qu'elle déconnecte en fait pas mal de la réalité, et parfois en fait je me suis aperçu que certains sportifs pouvaient avoir du mal à être connectés au moment J, quoi, hein. C'est-à-dire que au moment de l'action, et bien, des difficultés en fait à être activé, à être dans le présent, à être à l'écoute de ce qui se passe, à être réactif, à être créatif. Et souvent, j'ai observé qu'il y avait une association en fait avec des profils de personnes qui étaient beaucoup en fait présents sur ces réseaux à développer ou exprimer des choses qui étaient un petit peu virtuelles. C'est-à-dire que parler de choses qu'on n'a pas encore réalisées, ben c'est bien, mais voilà, il faut quand même passer par l'étape de la réalisation.
Je trouve ça intéressant ce que vous dites sur l'importance du sportif d'être acteur dans son processus de préparation. Ça veut dire, enfin, du coup, si je comprends bien, ça veut dire que pour vous, le sportif va être acteur de sa préparation, va être vraiment impliqué dedans. Et plus il aura de chances, après, dans une perspective de haute performance, d'aller de plus en plus loin, Du coup, est-ce que le fait d'être passif par rapport à ça, ça peut être une limite à atteindre un certain seuil de performance?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une limite. Et pour moi, c'est pas tant un quiproquo de parler de sportif et de parler d'artiste. Je pense qu'il y a une forme de créativité qui est nécessaire dans les deux, dans les deux cas. L'objectif de l'entraînement, c'est de se préparer à la performance. Et si la performance inclut une grande partie de créativité, il faut développer en fait un contexte qui va être favorable à ça. Donc enseigner cette démarche-là de façon à ce que les sportifs soient complètement s'approprient complètement cette intention. C'est pas juste la démarche, c'est aussi l'intention, et c'est faire vivre ces intentions-là dans le réel, dans le moment où il faut produire quelque chose.
Et est-ce que pour vous, il y a une spécificité propre à la pratique du canoë dans le rapport des sportifs et des entraîneurs avec les outils numériques par rapport à d'autres sports?
Disons que Cédric a évoqué en fait la vidéo. C'est-à-dire qu'on est une discipline où on utilise beaucoup de vidéos, donc soit à l'entraînement, soit en compétition. Ces images nous permettent d'analyser ce qui se passe. Donc on observe ce qui se passe au niveau des trajectoires, des placements du bateau, la façon d'utiliser les mouvements d'eau, la gestuelle sur le coup de pagaie. Et on peut aussi mettre en parallèle en fait deux ou trois concurrents, qui permet d'avoir plus de précision. Donc cet outil-là, il est aujourd'hui bien intégré et il fait partie de la construction de la performance. Sauf que, encore une fois, il peut y avoir des travers, c'est-à-dire que certains sportifs vont un petit peu se complaire parce qu'ils ont besoin de se regarder. Il y a un côté un petit peu narcissique. Et en fait, l'outil vidéo doit permettre d'ouvrir des champs, de nouveaux champs sur la possibilité de modifier, d'améliorer certains paramètres. Et au quotidien, parce que des images, on en fait quasiment tous les jours, au quotidien, je me rends compte que ça vient soit alimenter ce désir de se regarder et aussi de communiquer. Parce que ces images-là vont être postées sur les réseaux sociaux de façon à montrer telle ou telle chose. Donc, on peut perdre un petit peu en fait, l'objectif de base dans l'utilisation de la vidéo.
Oui, une question que je me pose, j'ai l'impression que ça revient depuis tout à l'heure, c'est que quand on parle de communication, des réseaux sociaux, tout ça pour les sportifs, j'ai l'impression qu'il y a ce problème en fait, pour ces sportifs. Par exemple, Cédric Joly, quand on a échangé avec lui, on a pu voir qu'il avait un travail, mais c'est qu'en plus d'avoir un travail, de devoir s'entraîner pour de la haute performance, ils ont aussi besoin de se vendre, de faire de la communication sur eux comme un produit. Est-ce que vous le ressentez comme ça déjà, et est-ce que justement ça, j'ai l'impression que tout ça vous nous en avez parlé un peu à côté, on l'a pas vraiment nommé, mais que ça nuit vraiment à la performance, cette espèce de marchandisation du produit du sportif de haut niveau?
Je pense que c'est quelque chose qui est très puissant effectivement, et c'est, on a du mal en fait à évaluer l'impact de tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que dans le sport moderne, les athlètes sont obligés d'en passer par là. Donc, on va dire que les plus aguerris, les plus disciplinés parviennent à faire la part des choses et à se recentrer sur eux-mêmes. Et d'autres peuvent en souffrir davantage parce que ça va être chronophage et ça va être, il n'y a pas de limite. Il faut toujours alimenter, il faut toujours communiquer. C'est fondamental d'être capable d'avoir la bonne représentation de ce qu'on fait, de là où on est, poser un jugement juste, adapter son niveau d'exigence en toute situation. Quand on est souvent en état de stress ou sur un fond de fatigue, souvent l'entraîneur est une bonne aide pour faire ça, parce qu'on va pouvoir discuter, on va pouvoir réfléchir. Par le questionnement, on va amener le sportif à être un peu plus clairvoyant vis-à-vis de lui-même. Les outils numériques ne font pas cette différence-là. Et donc la notion d'échec est mal, difficilement communicable. Alors que pour un entraîneur, l'échec est une manne, en fait. C'est une ressource hyper riche pour justement reposer des questionnements, réorienter les objectifs, recentrer la personne sur ses sensations, la reconnecter avec sa propre réalité, en phase avec l'ambition de se surpasser et d'être champion. Comme ça a été évoqué en tout début d'émission, devenir un demi-dieu, c'est quand un athlète gagne une échéance majeure, il a ce sentiment-là et il le partage, en fait, dans le sens où ça rend le public heureux, ça rend la tribu heureuse, le club, la famille. Mais pour arriver à cette ultime étape, il y a énormément de construction. Et tout mon questionnement est de savoir si ces outils vont favoriser ça, ou au contraire, est-ce que les outils viennent amener du parasite.
Et est-ce que, pour en revenir plus spécifiquement à la question de l'utilisation des outils numériques, est-ce qu'il y a un rapport différent de leur utilisation entre l'entraîneur et l'athlète? Est-ce que il y a le même rapport de ces deux personnes aux outils numériques, ou est-ce qu'il y a des différences?
Oui, non, il y a des différences. Je pense que à la base, ce sont plutôt des outils qui vont être destinés à l'entraîneur, de façon à mieux maîtriser la programmation d'entraînement. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir capitaliser des données, avoir des informations sur la progression. Donc, de ce point de vue-là, les chiffres peuvent être très intéressants. Mais de la même façon, quelquefois, ces outils peuvent être une béquille. C'est-à-dire que l'entraîneur va utiliser une technologie ou des outils qui vont lui donner l'impression, en fait, qu'il fait son travail d'entraîneur. Et plus l'outil est nouveau, plus la technologie est révolutionnaire, plus on a le sentiment qu'on va modifier, en fait, on va avoir un impact sur la performance très important. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'entraîneur doit être extrêmement vigilant, parce que ça vienne au service du projet de performance, et que ça ne se soit pas juste une vision complètement étroite, en fait, et que le rôle, en fait, de l'entraîneur s'arrête là. L'athlète, lui, en fait, il va, en fonction des appétences de chacun, certains athlètes vont être extrêmement intéressés par ces outils. Ils vont vouloir faire des graphes, avoir des statistiques, connaître leur courbe de progression. Donc certains sportifs sont impliqués, et de ce point de vue-là, ils ont vite des démarches individuelles pour pouvoir utiliser des outils. Donc ça, c'est une bonne chose, encore une fois, si ça vient répondre à des aspirations personnelles. Par contre, d'autres sportifs sont complètement hermétiques. Et dès qu'on leur parle de statistiques ou de pourcentage de réussite, ça va pas du tout leur convenir. Donc, je crois que le travail de l'entraîneur de ce côté-là est justement de réussir à adapter au maximum son approche, sa pédagogie, de façon à répondre aux besoins du sportif. Dans un objectif de développement. Et l'objectif de l'entraînement est d'amener une transformation. Cette transformation doit aller vers la performance. Donc, il faut utiliser les bons moyens, en fait, les adapter à chacun.
Alors, du coup, on l'avait déjà un petit peu évoqué, mais dans le sport, l'utilisation du numérique, ça touche pas que l'entraînement des athlètes. Mais ça intervient aussi, par exemple, dans la communication, dans la gestion des clubs, dans l'organisation des compétitions et d'autres encore. Et est-ce qu'il y a des aspects qui, selon vous, échappent actuellement à la numérisation, ou qui devraient y échapper totalement, en tout cas?
Je crois que rien n'échappe à la numérisation, puisque la communication, elle passe par le numérique. Hein, donc, on a évoqué... On a évoqué le WhatsApp, par exemple, qui aujourd'hui est une application sur le téléphone qui est répandue de façon extrêmement importante. Donc, il n'y a pas eu une compétition, pas un stage, pas une action où il n'y a pas un WhatsApp qui est créé spécifiquement pour pouvoir améliorer la communication. Donc, ça amène beaucoup de choses, évidemment. Il faut pas se cacher, il y a une rapidité de communication qui est importante. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que les temps de réunion sont réduits, ou la capacité de certains, en fait, à s'exprimer dans des temps de réunion diminue, puisque c'est plus facile de passer par des messages. Donc, je trouve que d'une façon générale, il y a vraiment du positif, mais il y a aussi un appauvrissement sur les relations humaines. Donc, au sens plus large, les organisations, donc que ce soit les clubs ou les comités régionaux, sont sujets au même fonctionnement. Et là, on touche du doigt un petit peu ce qu'on peut appeler le sport administré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une part très importante, en fait, de documents qui sont nécessaires à mettre en ordre avant chaque stage pour rédiger des projets et des plateformes dans tous les sens. C'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau aujourd'hui, il est assujetti à se localiser en permanence. C'est-à-dire que si pour répondre au contrôle antidopage, il faut qu'il remplisse la base de données avec son adresse en permanence. C'est-à-dire que s'il doit s'absenter pour partir en week-end en famille, il doit remplir le formulaire. De la même manière, il y a énormément de choses à mettre à jour en permanence dans le suivi des athlètes. Et ça vient vraiment alimenter des bases de données qui sont destinées à détecter les jeunes, ou il y a une forme de profilage qui est recherchée. Donc, dans un souci d'amélioration, de mon point de vue, on amène énormément de contraintes et on surcharge beaucoup le système. Et je ne vois pas son pendant. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses dans un axe qui passe par le numérique, mais le travail concret de développement des personnes, développement des groupes, améliorer les relations interpersonnelles. De ce point de vue-là, c'est beaucoup plus anecdotique. Et je crois que, in fine, quand on est sur une échéance importante, ce qui va primer quand même, c'est la capacité des hommes et des femmes à repousser les limites. Et à ce niveau-là, le numérique est rarement la clé.
Nous, il nous semblait qu'il y avait quelque chose de normatif dans l'utilisation et l'usage des outils numériques. Et en partant de cette assertion, on voit que la norme qu'engendrent ces outils numériques, elle peut représenter un risque vis-à-vis de la performance, parce que, autrement dit, les outils numériques, est-ce qu'ils ne risquent pas de normer des comportements pour les sportifs de haut niveau, et donc de normer la performance?
Disons qu'il y a différentes façons d'envisager la performance, probablement, c'est-à-dire que sur une discipline en fait où il y a un record, on peut estimer que quelqu'un qui saute à la perche, sa performance va pouvoir être exprimée par le fait de repousser les limites. Dans le cas d'un championnat, la performance c'est celle qui permet à une personne de gagner la compétition. Pour moi, ça amène un petit peu une différence quand même. Je sais plus quel lien je voulais faire avec ça.
C'était sur la normativité, que les outils amènent à la performance et au dépassement de soi.
Donc, cette norme, pour moi, elle pose un problème parce qu'effectivement, elle peut contraindre les gens à rentrer un petit peu dans des boîtes. C'est-à-dire qu'on va attendre de chacun de se conformer, on va dire, à un certain fonctionnement. Et on sait qu'en fait, pour atteindre des performances, il faut être capable de repousser des limites. Donc, il faut quand même des tempéraments ou des caractères atypiques. Donc, les gens qui sortent un peu des clous ou qui ont peuvent être difficilement, sont des fois difficiles à gérer parce qu'ils vont avoir beaucoup de caractère. Ils ont le profil justement pour aller chercher la perte. Tout ce qui va amener à mettre des normes et puis en fait à rendre les gens un petit peu identiques les uns aux autres, je pense que ça nous écarte effectivement de cette notion de performance et de capacité à aller chercher le singulier. Et la performance est singulière. Elle est unique, elle est dans un temps particulier. Donc c'est difficile de mettre une norme. Et tout ce qui va pousser en fait à se conformer, pour moi, il y a un risque. Alors, dans l'autre point de vue, on peut estimer que la performance nécessite de s'entraîner beaucoup, par exemple. Aujourd'hui, pour atteindre le haut niveau, il faut se conformer, on va dire, à un volume d'entraînement, à un niveau d'engagement. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que se conformer, ça va dans le bon sens. Mais tout est une question de régulation, d'arbitrage, de façon à avoir ce que ça tire vers le haut. L'ensemble doit être tiré vers le haut.
Alors du coup, Yves, on va se pencher un instant sur l'automatisation par le numérique dans le monde du travail. Et pour cela, on va écouter un extrait de l'ouvrage La société automatique, tome 1, L'avenir du travail, du philosophe Bernard Stiegler, qui est paru en 2015 aux éditions Fayard et qui va être lu par Clara Majman.
Le 13 mars 2014, Bill Gates déclarait à Washington qu'avec la software substitution, c'est-à-dire avec la généralisation des robots logiques et algorithmiques pilotant des robots physiques, des smart cities à Amazon, en passant par les usines Mercedes, le métro et les camions livrant des supermarchés d'où les caissières auront disparu, tout comme les manutentionnaires, sinon les clients, l'emploi allait drastiquement diminuer au cours des 20 prochaines années, au point de devenir une situation exceptionnelle. Cette thèse, qui est explorée depuis quelques années en profondeur, a été récemment répercutée dans la presse européenne. D'abord en Belgique, par le quotidien Le Soir, qui annonçait en juillet 2014 le risque d'une destruction de 50% des emplois dans ce pays d'ici une à deux décennies. Puis, en France, elle a été reprise par le journal du Dimanche en octobre 2014, dans un article annonçant sur la base d'une étude commandée par ce journal au cabinet Roland Berger, la destruction d'ici à 2025 de 3 millions d'emplois, touchant tout autant les classes moyennes, les emplois d'encadrement et les professions libérales, que les métiers manuels. Notons que 3 millions d'emplois perdus, cela représente environ 11 points supplémentaires de chômage, c'est-à-dire un chômage complet à 24%, ne tenant pas compte des chômeurs étant employés partiellement ou occasionnellement. En France, dans 10 ans, quel que soit son niveau et les façons de le comptabiliser, le chômage oscillera vraisemblablement entre 24% et 30%. Le scénario de Roland Berger étant relativement optimiste par rapport aux prévisions de l'Institut Bruegel, comme on va le voir infra. Et, dans tous les cas, ces études annoncent la disparition définitive du modèle fordo-keynésien qui organisait la redistribution des gains de productivité issus de l'automatisation taylorienne sous forme de pouvoir d'achat acquis à travers les salaires.
Et alors, dès le début de son ouvrage, Bernard Stiegler nous invite donc à observer et à comprendre qu'il y a une potentialité d'automatisation des tâches à travers des métiers. Une automatisation telle que de nombreux métiers sont voués à changer, de telle manière que le rôle de l'humain dans ces tâches sera effacé ou bien transformé. Yves, comment est-ce que vous envisagez cette évolution dans votre profession et plus largement dans le milieu du sport de haut niveau ?
Je n'envisage pas. On va dire que l'automatisation... Je peux la concevoir aisément sur des tâches qui sont très mécaniques ou on a besoin de machines. Dans le monde de l'entraînement ou du travail d'entraîneur, on va dire, je pense qu'on ne pourra pas se passer de l'humain. Même si, comme on l'a évoqué, il y a de plus en plus d'outils qui viennent au service du projet de performance. Et on voit bien d'ailleurs dans les équipes. Les équipes de canoë-kayak actuellement, on a des gens qui sont dont c'est la tâche à 100%, donc ils vont s'occuper de faire
les statistiques, s'occuper de faire des prises vidéo, d'analyser différents paramètres. Pour autant, je crois que le rôle de l'entraîneur, c'est-à-dire qui est assujetti à un regard technique, apporter des observations, observer ce qui se passe et questionner le sportif pour l'amener à développer ses propres capacités. Cet aspect-là, je ne peux pas le concevoir en fait par une autre entité. Voilà, je crois que la dimension humaine reste et restera encore, à mon avis, dans la démarche de haut niveau.
Et du coup, comment est-ce qu'on peut, par rapport à ce qui se fait actuellement, transformer les usages des outils numériques dans l'univers du sport de haut niveau ? Parce que finalement, ces outils, ça reste des outils et c'est l'usage qu'on en fait qui fera que ce sera un remède ou bien un poison, pour reprendre la formule qu'on a évoquée au début de l'émission. Du coup, comment faire en sorte que ça ne soit que des remèdes, finalement ?
Justement, je pense que c'est de parvenir à faire avoir une bonne régulation et ne pas vouloir étendre ces outils à toutes les tâches et être capable de discerner en fait là où l'outil numérique va apporter une plus-value. Et pour moi, elle doit apporter une plus-value pour améliorer en fait la composante humaine. Voilà, parce que le sportif, c'est bien une personne. C'est lui qui va faire la performance. Donc tous les efforts mis en œuvre en fait doivent optimiser cette démarche là. Et donc là il faut un petit peu d'intelligence en fait sur l'utilisation de ces outils. Et on voit bien qu'en fait la tendance c'est aussi un effet de société ou un effet de mode en fait. On pense que l'outil va pouvoir remplacer l'analyse humaine en fait, ou va pouvoir se substituer à l'analyse personnelle ou remplacer les représentations. Pour moi, elles impactent davantage les représentations et elles ne peuvent pas les remplacer. C'est-à-dire que quand je parle de représentation, c'est qu'est-ce qui va pouvoir apporter une réelle plus-value, une modification, faire un pas supplémentaire vers la réussite. Je crois que ça, c'est stratégique. Et c'est important d'avoir la bonne représentation de ce qu'il faut réaliser et mettre en place. Donc, l'intelligence de l'athlète est fondamentale. Et forcément, son travail, son relationnel avec son encadrement va être primordial pour qu'il puisse se développer.
Et bon, du coup, on va revenir sur un sujet qu'on a déjà un petit peu évoqué, qui est celle du lien humain qui doit être très présent dans le sport et dans la relation entre l'athlète et son entraîneur. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la critique des outils numériques dans le sport à ce niveau-là, elle est assez similaire à celle qu'on fait habituellement, dans le sens où, paradoxalement, les outils numériques, ils nous éloigneraient les uns des autres, alors que leur but premier, c'est quand même de nous rapprocher, surtout dans le cas des réseaux sociaux. Et est-ce que du coup, vous avez eu l'occasion vraiment d'observer une perte de lien social dans le milieu du sport qui serait liée à l'utilisation des outils numériques ?
Oui, je pense que je peux affirmer ça. Il y a une petite métamorphose qui s'est opérée. Et je pense que ça a un peu dégradé la capacité aux gens d'être bien ensemble, de partager, d'avoir aussi la possibilité d'avancer vers un objectif commun. Même si on est dans une pratique individuelle, tout l'art du système ou de l'entraîneur, en fait, c'est de réussir à combiner un objectif collectif, mais qui va être atteint par des performances individuelles. Donc forcément le lien entre les gens, en tout cas le bon vivre, la joie de faire, l'entrain favorise en fait les conditions de préparation, la motivation. Et souvent, on va dire, si pour reciter encore les réseaux sociaux, ça a plutôt tendance à séparer un petit peu les gens. En tout cas, ça ne va pas forcément renforcer un esprit collectif ou de groupe. Et tout ça, justement, je pense que c'est important d'en prendre compte, notamment pour les gens qui sont dont la tâche est de faire du management. Et à mon sens, un bon management, c'est réussir à utiliser l'image d'un collectif pour le valoriser, pour communiquer vers des partenaires. Mais c'est aussi être capable d'animer en fait ce qui se passe au sein de ces personnes, aussi bien un groupe d'entraîneurs qu'un groupe d'athlètes. Et cette partie-là, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle est complètement sujette en fait à des relations humaines en fait. À être capable de se mobiliser sur un objectif commun et à être dans le partage pour avoir plus de force. Je crois que justement ces outils numériques entre guillemets, ils ont un petit peu tendance à cloisonner, et le fait de faire davantage de communication via mail ou via WhatsApp vont diminuer en fait ce travail là.
Très bien. Écoutez Yves, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et afin de terminer un peu l'émission sur une note un peu plus légère, on va passer au questionnaire du fauteuil. Alors Yves, première question, chose un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous apaise le plus ?
M'apaise le plus, c'est le sentiment de satisfaction.
Et quel est votre plus beau souvenir ?
Mon plus beau souvenir, difficile d'en sélectionner un, mais on va dire le plus frais souvenir d'une réussite sportive, et je pense au titre de Cédric Joly.
Et si vous n'aviez pas été entraîneur de kayak, quel autre métier auriez-vous aimé faire ?
Je crois que j'aurais aimé être guide de haute montagne.
Quel serait votre juron préféré ?
Mon juron préféré est Tivoli. Tivoli, c'est un juron tchèque.
Et qui veut dire, hein ?
Qui veut dire merde, couille, con.
Ok.
Et quel serait l'endroit où vous désireriez vivre le plus si c'est pas l'endroit où vous vivez actuellement ?
Je suis assez satisfait de l'endroit où je vis actuellement, mais sinon, ce serait le Jura. Où j'ai eu mes sources.
Yves, quelle est votre vertu préférée ?
Le courage.
Et quelle personne ou quelle chose vous inspire le plus dans la vie ?
Personne, Nouria Newman, la plus grande kayakiste à mes yeux.
Ça lui fera très plaisir, je pense. Et votre odeur préférée ?
Mon odeur préférée, c'est... l'odeur du pain grillé.
Et à l'inverse, l'odeur que vous détestez ?
Il y a une odeur dont j'ai horreur, c'est l'odeur des fast-food, l'odeur du McDonald's.
Pas de placement de marque dans cette émission, mais, Yves, du coup, dernière question. Qu'auriez-vous aimé dire à quelqu'un et que vous n'avez jamais osé lui dire ?
J'ai du mal sur cette question, je crois. Je ne trouve pas. C'est certainement pour ça que je ne l'ai jamais dit.
Ça marche, bonne réponse. Et Yves, avant de terminer, nous avons quelqu'un qui avait quelque chose à vous dire et qu'on va vous faire écouter maintenant.
Non, je lui dirais merci, quoi. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir encore une longue discussion avec lui depuis qu'il a été écarté de son poste d'entraîneur parce qu'il a enchaîné sur les championnats du monde que moi je courais pas. Mais non, c'est au-delà de l'aventure sportive, de ce qu'il m'a apporté, il a changé mon regard sur les outils numériques, et ça c'est pas rien. Voilà ce que je dirais.
Voilà, vous aurez reconnu Cédric Joly.
Ouais, tout à fait.
Et bien, sur cette note de légèreté, l'émission est maintenant terminée. Yves, on vous remercie vraiment beaucoup et chaleureusement d'avoir passé tout ce temps avec nous et à échanger autour de ce sujet. On est très heureux de vous avoir reçu sur le fauteuil philosophique, même si, bon, pour cette fois, c'est fait de manière virtuelle. Bon, c'est un petit peu ironique, étant donné toute la critique qu'on a faite des outils numériques depuis le début, mais bon, c'est comme ça. Un grand merci à Clara Majman pour la lecture de textes, merci à Arthur Arts pour les ambiances musicales, et un grand merci également à Cédric Joly pour l'échange qu'on a eu avec lui, et merci bien sûr à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de nous écouter. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à aimer, commenter et partager. Et on reviendra très bientôt, même si on ne sait pas encore quand, pour un nouvel épisode du Fauteuil philosophique. Et d'ici là, n'ayez pas peur de philosopher.